La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Bonjour à tous. Merci aux équipes de La Place déjà d'organiser cette convention, la L2P, avec énormément de rencontres, de conférences. Le programme est encore très riche pour cette troisième édition. On est gâtés. Merci beaucoup aussi à vous d'être là en plein milieu de journée, un jeudi à 14h, c'est beau. Aujourd'hui, c'est une discussion qui me tient à cœur. Parce que je pense qu'on vit une époque où il est devenu plus facile techniquement de faire et de commercialiser sa musique. Mais il reste encore beaucoup de flou sur certains rouages du business, sur toutes les structures aussi qui aident et accompagnent les artistes, notamment les jeunes artistes. Et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là dans la salle. Donc on va essayer de faire un peu la lumière sur tout ça de la manière la plus pédagogique possible. Vous devez repartir d'ici, j'espère, en sachant où est l'argent, globalement. Pour cette mission, on a constitué une belle équipe d'organismes indispensables pour le développement d'une carrière. Alors, on a la SACEM, on a le Centre National de la Musique, le CNM, et l'ADAMI. On va faire un petit tour de table pour savoir qui fait quoi parmi vous. D'abord, la SACEM, représentée par Nathalie Roy. Nathalie, merci d'être là. Deux questions très simples. Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement à la SACEM? Et qu'est-ce que la SACEM, en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans les détails?
Merci, Ismaël. Donc, bonjour à toutes et tous. On ne vous voit pas bien. Je suis Nathalie Roy. Je travaille à la SACEM à l'Action culturelle. Et j'ai la chance de travailler dans cette société qui est donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. J'imagine que certains d'entre vous sont membres et on posera un peu de questions plus tard. Il y a trois missions principales à la SACEM. Je les ai notées pour ne pas oublier. C'est collecter et répartir les droits, défendre vos intérêts partout dans le monde et vous aider sur des aides à la création, entre autres. Et pour ma part, je suis à l'Action culturelle. Je suis responsable du pôle musiques actuelles. Et mon travail, c'est d'aider les créateurs en direct et d'aider la filière également qui travaille avec elle. Mais au-delà des musiques actuelles et au-delà du rap, on a aussi des pôles qui concernent les musiques contemporaines, le jeune public, l'éducation culturelle et artistique. Voilà en gros.
On reviendra en détail sur tout ça. On a aussi donc le Centre National de la Musique, le CNM, représenté par Louis Alonnet, ici présent. Les deux mêmes questions, Louis, quel est ton job au CNM et qu'est-ce que le CNM? En quelques mots, c'est peut-être un peu moins connu que la SACEM parce qu'une histoire différente. Explique-nous un peu ça rapidement.
Merci Ismaël, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Louis Alonnet. Je travaille au Centre National de la Musique. Je suis directeur adjoint en charge du soutien aux projets artistiques et de l'international. Alors, le CNM, effectivement, il faut expliquer ce que c'est parce que c'est le plus récent des établissements là, que tu as invité aujourd'hui. On est un établissement public qui a été créé le 1er janvier 2020 et qui, en fait, est l'addition de plusieurs structures qui existaient, elles, depuis pas mal d'années. Donc, le premier était déjà un établissement public qui s'appelait le Centre National des Variétés et de la Chanson. C'est un établissement public qui avait vocation à gérer une taxe sur la billetterie et une redistribution auprès des producteurs et aussi pour aider au financement de projets de production de spectacles. C'est aussi l'addition du FCM, du Fonds pour la Création Musicale, qui existait aussi depuis pas mal d'années et qui était un organisme de financement de projets, alors projets de musique enregistrée, de projets d'édition, de spectacles, de festivals, etc., etc. C'est aussi l'addition du Bureau Export qui existait depuis 1993. J'étais d'ailleurs un ancien moi du Bureau Export. Donc le Bureau Export avait pour mission de développer la filière française à l'international par le biais de plusieurs financements et de non-financiers aussi. C'est aussi l'addition de l'IRMA, l'Institut de Recherche des Musiques Actuelles, qui avait justement pour but de faire de la recherche, de proposer des rapports, de proposer un certain nombre d'informations et de ressources, mais également de faire de la formation et de l'édition. Et en dernier, la dernière structure qui a rejoint le CNM s'appelait le CALIF. Ça ne vous parle peut-être pas, mais le CALIF gère ce qu'on appelle le Record Store Day, le Disquer Day, qui prend de plus en plus d'importance chaque année pour mettre en avant le format du vinyle. Donc le CNM, c'est un établissement public qui regroupe toutes ces entités. Ces entités, leur mission, en fait, elle continue au sein du Centre National de la Musique. Donc on fait plusieurs choses. Déjà, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez aller lire le projet de loi, enfin la loi qui a créé cet établissement public, qui date donc du mois d'octobre 2019. Et dans cette loi sont fixées toutes les missions du Centre National de la Musique. Alors, c'est assez rébarbatif, je ne vais pas vous les énumérer.
Fais-nous gagner du temps, là.
Voilà, je vais vous faire gagner du temps. De l'étude et des ressources sur la filière musicale, de faire en sorte qu'on ait un observatoire réel et efficace sur l'état de la filière en France. Il y a plusieurs études qui sont sorties dernièrement, une étude sur le fake stream, il y a des études sur la production de spectacles, sur le user-centric, donc éventuellement un modèle de rémunération du streaming dans les années à venir. Donc il y a ce type d'études qui doivent être des études de référence. Au-delà donc de cet observatoire, on fait du soutien financier et non financier. Donc le soutien financier, c'est la partie dont je m'occupe avec mes équipes, on va aider les producteurs, les productrices à développer la partie musique enregistrée, édition, production de spectacles, développement à l'international. Donc vous pouvez venir chercher des financements auprès du CNM dans ces différentes activités. Donc ça, c'est un pan extrêmement important de l'activité du CNM. Concrètement, ça représente les 3/4 du budget de l'établissement. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. On fait du non financier. Donc je parlais tout à l'heure des formations, de l'édition, mais on fait aussi du conseil, de la recommandation et de l'accompagnement hors financier pour les structures. Et on y reviendra un petit peu plus d'ailleurs par la suite. Et ensuite, il y a un certain nombre de missions sur la diversité, les territoires, donc le travail en région, sur l'éducation culturelle, artistique, etc., etc. C'est un ensemble de missions. Bon, aujourd'hui, on va vraiment resserrer plutôt sur la partie soutien financier et non financier. Je pense que c'est non seulement ce qui vous intéresse, mais c'est ce qui est vraiment, vraiment prenant. Et un mot pour finir sur le CNM. Donc, on a été créé le 1er janvier 2020. Je suis long, excusez-moi. Le 1er janvier 2020, et en fait, 3 mois après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, pendant 2 ans, le CNM a été, si je puis dire, le pompier de service de la filière musicale française. Donc, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais tous les fonds qui ont été, tout le financement qui est passé à destination de la filière musicale a transité par le CNM. Et donc on a eu des budgets colossaux à gérer pendant 2 ans pour éviter les faillites, pour maintenir l'emploi, pour remettre les artistes au travail. Il y a un Larsen derrière merci. Et donc on a œuvré de cette manière-là. Donc là on arrive à un rythme de croisière, on l'espère, plus tenable.
Merci pour les travaux. On termine avec l'Adami, représentée par Baptiste Biaggi. Baptiste, tu connais les questions maintenant, donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu fais à l'Adami et à quoi sert l'Adami ?
Bonjour donc à toutes et tous. Donc, je suis à l'Adami. L'Adami, c'est la société civile pour l'administration des droits des artistes musiciens interprètes. À l'Adami, il y a tout un pôle qui est en charge de l'action artistique. Et dans celui-ci, je suis en charge des projets qui vont concerner notamment toutes les musiques actuelles, mais aussi les musiques du monde et les musiques traditionnelles, sur tous les aspects, on va dire, aide financière au projet. Voilà, l'Adami est un peu plus ancienne que le CNM, mais plus jeune que la SACEM, a été créée en 1955. Et nos missions, finalement, elles se ressemblent un petit peu toutes, ressemblent quand même beaucoup à celles de la SACEM, puisque nous aussi, en numéro 1, en gros, l'idée, c'est de pouvoir collecter et répartir des droits. En deuxième mission, c'est de pouvoir défendre et promouvoir les intérêts donc de la population que nous représentons, donc les artistes en l'occurrence. Et en troisième lieu, c'est ça, c'est apporter donc des aides financières aux projets. Et en fait, au travers des aides financières qu'on apporte, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est du développement de carrière et aussi donc du soutien à l'emploi artistique. Voilà, donc aussi, il y a une petite différence, c'est que SACEM et Adami, nous sommes privés, à la différence du CNM, qui est donc un établissement public.
Merci, on va rentrer dans les détails de tout ça, vos aides financières, les projets d'accompagnement. Mais déjà, merci de participer à ce travail de vulgarisation, parce que c'est vrai que c'est des organismes qui peuvent paraître opaques parfois pour tous les jeunes artistes qui se lancent ou même qui ont déjà un peu d'années de carrière. Donc c'est cool, on va pouvoir éclairer un peu tout ça. Je vous propose que justement pour cette discussion, on se place dans une situation concrète. celle d'un ou d'une jeune artiste en développement, qui a peut-être déjà sorti quelques EP, quelques projets, qui peut être signé sur un label indépendant ou en autoproduction, et qu'on prenne globalement ce cas de figure, qui va nous permettre de brasser, je pense, pas mal de problématiques, en fait. On va parler des aides financières et des accompagnements que vous proposez, mais avant, il y a une question importante, vous l'avez déjà un peu évoquée, c'est la question des droits. On s'y perd souvent, on ne comprend pas bien où il faut aller récupérer ces droits d'auteur, et même qu'est-ce que c'est précisément que les droits d'auteur. Nathalie, je voudrais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur ce que sont les droits d'auteur et comment le système avec la SACEM fonctionne ?
Oui, alors c'est hyper important parce que souvent les artistes, déjà il y a les artistes, quand on parle d'artistes, il y a les auteurs, compositeurs, les créateurs donc, mais il y a aussi les interprètes et c'est des droits complètement différents. Nous, SACEM, on gère les droits d'auteur. Donc en fait, c'est la seule rémunération d'un auteur-compositeur, c'est les droits d'auteur qui sont régis par le code de la propriété intellectuelle. Donc à partir du moment où vous déposez vos titres à la SACEM, nous, on va en fait collecter tous les droits à chaque fois qu'une diffusion musicale a lieu, sur des concerts, mais aussi sur Internet, sur les lives, à l'export, partout dans le monde. En fait, on a des sociétés, on a des accords de réciprocité avec toutes les autres sociétés au monde. Donc, on collecte les droits partout. Et aussi, on a la chance d'avoir un réseau régional partout en France où, en fait, ils sont là pour collecter les droits et ensuite les répartir à juste titre et au centime près par rapport à la bonne utilisation de l'œuvre.
Comment ça se passe, du coup, l'inscription à la SACEM ?
C'est hyper simple. J'ai révisé ce matin avec mes collègues qui sont juste à gauche là-bas et qui font un super atelier samedi et qui seront présents sur le stand CSM demain et après-demain. Mais en fait, il y a eu des grandes réformes pour faciliter l'adhésion. Il suffit d'avoir une œuvre en ligne sur, par exemple, Spotify et de nous montrer une copie écran. En vrai, l'adhésion, ça dure 10 minutes si tout va bien sur votre site CSM, en fait, sur votre espace réservé. C'est hyper facile. Donc, je reprends mes notes encore. Une copie écran ou une copie écran exactement aussi de votre page YouTube avec 1000 vues suffisent en fait pour adhérer à la SACEM. Ensuite, il y a un petit traitement de délai, mais c'est
combien
simple.
De temps à peu près ?
Combien de temps, les collègues ? Une heure. En une heure, vous êtes membre SACEM. Voilà.
Et c'est gratuit ?
Non. L'adhésion est payante, mais vous payez une fois pour toutes. C'est 100 euros.
100 euros pour avis, quoi.
Avis,
ok. Okay. Ça me fait penser à une question, c'est que souvent, les artistes en début de carrière négligent peut-être cette inscription, la question même des droits d'auteur, parce qu'ils se disent, ma musique ne va peut-être pas générer suffisamment de revenus, ça ne sert pas à grand-chose que je m'inscrive dès maintenant. Est-ce que c'est une idée reçue, ça, ou est-ce que ça a un sens de penser comme ça ?
Non, c'est une idée reçue. Après, quand vous êtes créateur et que vous diffusez vos titres et que par chance, tout s'emballe et ça va hyper vite, généralement, vous oubliez un peu l'étape importante, la première qui est, selon nous, de déposer vos morceaux. Donc, première démarche, c'est s'inscrire. Et ensuite, hyper important, c'est de déposer vos titres. Et c'est souvent ce qui pêche. D'avoir la démarche d'adhésion, à la rigueur, c'est facile. Et vous pouvez être accompagné par un éditeur, mais on en parlera plus tard. Mais après, il ne faut surtout pas oublier de documenter vos œuvres, en fait. D'inscrire. Par exemple, l'exemple concret et qui est très parlant dans le rap en particulier, c'est que vous êtes membre, vous n'avez pas déposé vos titres. Il y a plein de raisons qui expliquent cela. Vous n'avez pas eu le temps, ou vous êtes plusieurs auteurs ou plusieurs compositeurs et vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas encore signé les papiers. Mais en gros, au bout d'un an et demi, on ne peut pas aller collecter les droits sur Spotify. C'est fini, en fait. Il n'y a pas d'antériorité après.
Un an et demi, le délai pour déposer, en fait, c'est ça ?
Exactement. Okay. Et souvent, ça peut faire des millions de streams. Alors, ce n'est pas encore ultra rémunérateur, mais c'est un des modèles les plus importants maintenant. C'est souvent par là que ça commence, avant la scène. Donc, c'est hyper important de le faire. Après, tout dépend des esthétiques. Il y a des esthétiques qui commencent en mettant simplement un titre en ligne et puis avec des stratégies d'étalement dans l'année. Et d'autres, ça va commencer par le live. Mais dans tous les cas, il faut s'inscrire, mais ensuite, forcément, déposer vos morceaux. Et troisième étape, c'est à partir du moment où vous faites des concerts, il ne faut pas négliger les programmes types. À savoir, souvent, vous avez une setlist et vous jouez à peu près les mêmes morceaux. Vous avez la possibilité sur votre espace de pouvoir mettre en ligne ces programmes en disant, voilà, je vais jouer telle œuvre. Alors, c'est surtout important pour vos œuvres, mais si vous jouez des œuvres d'autres, c'est une manière pour nous de savoir vers qui répartir ensuite.
Alors là, on a parlé des droits d'auteur.
Ouais.
Il n'y a pas que. Il y a aussi des droits voisins. Donc là, je me tourne vers Baptiste pour que tu nous expliques du côté de l'ADAMI qu'est-ce que c'est que les droits voisins et comment le système fonctionne aussi de votre côté.
Alors, Nathalie vous a parlé donc, des droits d'auteur. Mais en fait, ces droits d'auteur, il faut comprendre qu'ils vont être générés grâce à des interprètes qui vont donc interpréter ces œuvres, des producteurs aussi phonographiques qui vont produire des enregistrements. Et donc, les droits voisins, c'est ça. Ça vient s'intéresser en fait, aux droits qui peuvent être conférés donc, aussi bien aux interprètes de ces œuvres que les producteurs phonographiques. Donc, les droits voisins, ils naissent en fait, si vous voulez, de la fixation, donc de l'interprétation d'une œuvre littéraire et artistique. Alors moi, évidemment, je représente les musiques actuelles, mais à l'ADAMI, d'ailleurs, je vais le lire en introduction, l'ADAMI, c'est aussi des comédiens et comédiennes, des danseurs et danseuses, il y a aussi des circassiens et circassiennes. En fait, tout artiste interprète donc d'une œuvre. Et donc, dès lors que son interprétation se retrouve à être fixée, aussi bien de façon sonore quand on fait un disque, que même de façon audiovisuelle, hein, pourquoi pas quand on joue dans une série, quand une pièce de théâtre dans laquelle on est sur scène peut être filmée et puis ensuite diffusée, eh bien, donc, ça donne lieu à des droits voisins. Et en fait, ils sont quand même assez récents, ces droits voisins, parce qu'ils sont nés, finalement, il n'y a guère que 38 ans, en 1985, avec la loi Lang. Et en fait, ils sont venus en fait, donner à l'artiste-interprète cette capacité d'autoriser ou interdire la fixation de son interprétation, mais aussi ensuite sa reproduction et son utilisation. En fait, c'est ça, un droit voisin, c'est vraiment, on va dire, un couronnement d'un long combat. Et voilà, sur les droits voisins. Et ces droits voisins, après, ils vont naître comment donc, comme je disais, il faut des exploitations, en fait. Et ces exploitations, elles vont être radiophoniques ou télévisuelles. Ou même, quand vous avez une musique qui passe dans un commerce, dans un café, dans une discothèque, tout ça va générer donc des droits voisins, au même titre que des droits d'auteur. Voilà.
Même question que pour Nathalie. Comment ça se passe, l'inscription à l'ADAMI ?
Alors, l'inscription à l'ADAMI, alors pour être membre de l'ADAMI, il faut donc pouvoir justifier avoir été interprète sur au moins une œuvre qui a été fixée, donc de façon sonore ou audiovisuelle. Donc, il suffit d'un titre qui a été fixé, de pouvoir montrer que ça a été le cas, et ensuite donc, de faire la démarche en ligne. Il vous en coûtera 15 euros une fois dans votre vie. Voilà.
Mon cher. Les délais, c'est assez court aussi ?
Alors, les délais ne sont pas aussi instantanés, mais c'est d'ordre, c'est en quelques jours finalement, okay. On est enregistré comme étant associé de l'ADAMI. Et être associé de l'ADAMI, en fait, ça permet notamment de. On le verra plus tard, mais ça peut jouer aussi sur les accès aux aides financières, mais c'est aussi quand on devient membre de l'ADAMI, en fait, on a une part sociale de l'ADAMI et ça permet en fait, de prendre part à la vie de la société, de participer aux élections de l'Assemblée Générale, notamment, et puis aussi de bénéficier d'un conseil juridique, enfin, plein de petites choses, quoi.
Ok. Je sais que c'est très variable, évidemment, selon les artistes, mais est-ce qu'on pourrait avoir un ordre d'idées des montants, des droits, selon différentes typologies d'artistes ? Est-ce qu'on sait combien ça peut rapporter j'ai sorti... deux projets, il y a peut-être un son qui tourne un petit peu en radio, mais pas massivement. Est-ce que c'est quoi ? C'est quelques centaines d'euros ? C'est quelques milliers d'euros ? C'est quoi ?
Je me lance. Je pense pas qu'on puisse répondre à cette question. Ça dépend vraiment de. Tout dépend si la personne elle est auteur ou autrice, compositeur, compositrice. Combien ils sont ? Quelles sont les diffusions ? Parce qu'en fait, à la SACEM, la complexité, le fait qu'on peut dire la SACEM est opaque. En vrai, je peux comprendre, mais c'est surtout le fait qu'il y a des barèmes différents avec chaque métier, en fait. Un coiffeur ne va pas payer la même chose qu'un festival, qu'une salle de concert, etc. Il y a des barèmes négociés, vraiment au plus juste. Donc, tout dépend de l'utilisation de la musique qui est faite. Si c'est sur TikTok, si c'est à l'étranger, si c'est à la radio, si c'est à la télé. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question.
Ou même, à quelle heure ça passe ?
À quelle heure ça passe ? Ouais. Et si c'est une reprise ? Ici, il y a des adaptations. Enfin, j'ai pas la réponse rapide à ta question.
Il y a tellement de paramètres, c'est pareil du côté artiste-interprète ou même producteur. Ça dépend de la radio sur laquelle on va passer, parce qu'en fait, elles vont pas payer les mêmes montants de droits. Ça va. Non, c'est vraiment. En fait, après, c'est vrai, ça peut être de quelques quelques dizaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. L'écart est quand même assez ample, en fait.
Par contre, nous, quand on accompagne des artistes, souvent, ils sont membres depuis pas très longtemps. Et par curiosité et aussi pour voir ce que ça génère, je regarde ce que ça fait un artiste qui fait des zéniths, etc. Et de voir qui part de 2 euros au moment de son adhésion à des chiffres vraiment énormes. Donc, ça représente beaucoup quand tu fais partie des top 15 des artistes qui tournent le plus en France. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, en fait. Ouais. Et quand tu peux faire la première partie également en concert, c'est pas neutre.
Okay. Ce que je peux dire, par exemple, je pense que Nathalie aussi, tu as des chiffres pour SACEM, c'est aussi le nombre de personnes en fait, qui vont percevoir des droits chaque année. À la DAMI, ils sont où elles sont 80 000 par an, et à la SACEM, c'est 200 000.
Il y a 200 000 membres, mais il y a 200 000 personnes qui touchent des droits ? Des ayants droit ? Non.
Non, mais bon, c'est dans ce être à peu près. Ouais. Je veux dire, de toute façon, voilà, ça doit être supérieur quand même au nombre d'interprètes malgré tout, donc c'est quand même pour vous donner un ordre d'idée que. Évidemment, on ne peut pas vous donner de montant type, mais pour autant, des gens qui perçoivent quelque chose sont quand même légion. Voilà.
Je rajoute un truc, mais le droit d'auteur, ça tombe pendant 70 ans après la mort des ayants droit. C'est quand même magnifique, quoi. Et là, Au-delà d'un cachet que tu touches quand tu joues.
Et ça tombe à une année après le.
Ouais, 6 mois minimum après. Oui, il y a un décalage.
Ok, pareil pour la DAMI.
Pour l'ami, c'est plutôt un an après.
D'accord. Okay. Tout ça, et on va conclure sur la question des droits, mais ça pose la question de l'éditeur musical. Est-ce que selon vous, il faut, quand on est un jeune artiste en développement, faire appel à un éditeur ?
Alors le mieux, c'est d'avoir un éditeur qui vous approche. Il n'y a même pas de drague à faire. Mais évidemment, nous, la SACEM, on représente les auteurs, compositeurs et les éditeurs. J'ai beaucoup d'exemples de très bonnes collaborations entre auteurs, compositeurs et éditeurs. Après, pour moi, c'est le partenaire naturel, le premier partenaire pour un créateur. Parce qu'il faut distinguer, en effet, les créateurs, les auteurs-compositeurs des interprètes et un éditeur. Déjà, on peut rappeler qu'il y a une différence entre un éditeur musical et un éditeur phonographique. Souvent, il y a une confusion quand on démarre dans la musique et à tout moment. Un éditeur phono, c'est un label. Un éditeur musical, c'est éditeur au sens des œuvres. Donc, il est là, un éditeur ou une éditrice, pour développer les œuvres, pour les valoriser, pour vous faire rencontrer d'autres créateurs, pour faire en sorte que vos œuvres vivent. Donc, selon moi, c'est hyper important. Et il y a plein d'exemples de très bonnes collaborations. Et... Oui.
Dès le début d'une carrière, on n'est pas obligé d'attendre que d'avoir généré de l'argent.
Généralement, quand un artiste intéresse la filière, il y a une espèce de bataille dans les salles de concert où on va tous, où il y a tous les tourneurs, il y a tous les éditeurs, il y a tous les labels. Ça, on se retrouve depuis 1000 ans au même concert et Les Inouïs fait partie de ce genre de moment où les artistes intéressent beaucoup. Donc l'enjeu, c'est de signer très tôt, en fait, pour eux. Mais après, il faut bien que l'artiste, que le créateur sache en quoi ça l'engage, puisqu'il va partager ses droits avec quelqu'un qui va être là pour travailler avec lui. Et puis il y a des avances, donc tout ça est compliqué. Après, d'ailleurs, on a un service juridique à la SACEM qui peut renseigner sur ces choses-là, mais c'est pas mal de prendre le temps et de ne pas signer avec la première personne qui arrive, quoi.
Baptiste, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou...
Je suis un peu moins légitime pour avoir un avis sur la question de l'éditeur. En tout cas, je vois ça comme un partenaire. Et c'est vrai que quand on se lance, il est quand même nécessaire de savoir donc bien s'entourer, enfin, d'être entouré déjà et de bien l'être. Et c'est vrai que. On ne peut pas tout faire et soi-même quand on est artiste. Et c'est bien aussi de pouvoir avoir sont des partenaires qui sont là pour vous aider avec leur expertise, leur expérience, sur des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Et moi, je vois vraiment près de l'éditeur comme étant un relais, quelqu'un qui est là pour promouvoir vraiment ce que vous faites. C'est au même titre que pourrait le faire un label ou pourrait le faire un manager. Donc, pour moi, a priori, c'est une nécessité, mais. Voilà.
Maintenant qu'on a parlé des droits, rentrons dans le vif du sujet avec la question des aides financières pour commencer. Et là, on va parler avec Louis, parce que ça fait longtemps que t'as pas parlé avec nous. Donc du côté du CNM, quelles sont les aides majeures que vous proposez pour les jeunes artistes ?
Alors, effectivement, on en propose beaucoup. Je vais essayer de structurer le chemin, parce qu'en fait, il faut vraiment essayer de le penser comme un chemin. De la même manière qu'on cherche des partenaires, qu'on doit se structurer dans son approche, il faut aussi réfléchir les soutiens financiers de cette manière-là. Je dirais qu'on a une porte d'entrée au CNM qui est assez récente, depuis pas longtemps. On a créé une bourse aux auteurs et aux autrices, compositeurs et compositrices. C'est tout nouveau, c'est la première fois qu'un établissement comme le nôtre fait une aide directe, donc un établissement public fait une aide directe de soutien à l'écriture, mais sans avoir un projet nécessairement structuré derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs typologies de soutien financier, on va dire déjà de manière générale. Il y a ce type d'aide dont je parle, une bourse qui va être décorrélée d'une temporalité ou d'un projet. Ensuite, il y a les aides au projet. Et j'y reviendrai un petit peu plus en détail juste après. Et après, ce qu'on appelle les aides à la structure. La structure, ça va vraiment être au niveau d'une entreprise. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que je ne pense pas que ça vous concerne directement. Mais vraiment, faut déjà considérer ces différentes typologies d'aides. Donc, il y a une bourse auteur qui existe. Elle a comment dire, quelques niveaux d'accessibilité avec un montant de droits générés les années précédentes. On parle de 3 000 euros de droits générés l'année précédente, 10 000 euros sur 3 ans, et que ça doit représenter 30% du chiffre d'affaires global, ou en tout cas des revenus de l'artiste qui demande cette aide. Ça paraît peut-être un peu abscon comme ça. Je vous invite à regarder sur notre site cnm.fr. D'ailleurs, quand vous avez des questions pour vous référer au droit, on a une rubrique aide. Et toutes les aides que je vais vous décrire là maintenant, elles sont bien répertoriées, résumées avec tout ce qu'il faut derrière. Donc ça, c'est la première aide, si je puis dire, directement aux artistes. Et après, on passe aux aides au projet. Et une aide au projet, c'est j'ai un projet, qu'il soit dans l'édition, qu'il soit dans la production de musique enregistrée, dans le spectacle vivant ou dans mon développement à l'international, j'ai un projet, comment je peux me faire accompagner? Alors, nous, on a des grandes catégories. D'un côté, on va aider la création de contenu, donc mis à part cette bourse dont je vous parlais, on a de l'aide au développement éditorial, de catalogue. Donc là, ce sont des éditeurs qui viennent nous voir et qui disent « j'ai signé tel ou tel artiste en pacte de préférence ». Nathalie en faisait référence tout à l'heure. Quand on dit « signer avec un éditeur », qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'éditeur va vous proposer de soit vous avancer de l'argent, soit vous mettre dans les meilleures conditions pour travailler, etc. etc. Et en échange, un pacte de préférence, ça veut dire que ce que vous allez écrire, composer pendant cette période, et partager avec cette personne. Donc nous, on va aider les éditeurs dans leurs investissements auprès d'artistes. Et alors, c'est généralement plutôt des jeunes artistes, mais ça peut être aussi tout au long d'une carrière, puisque un pacte de préférence, ça se renouvelle régulièrement, et on peut renouveler régulièrement. Donc nous, des éditeurs vont venir nous chercher en disant « j'ai signé tel ou tel artiste, j'ai des factures de studio, de répétition, de cours de chant, je lui ai acheté un MacBook, une carte son, un clavier maître, etc. J'ai des dépenses pour cet artiste, j'aimerais que vous m'aidiez, que vous m'accompagniez dans ces dépenses pour que je puisse l'aider à développer son projet. » Donc ça, ils peuvent venir, les éditeurs peuvent venir au CNM pour cela. Si on suit le parcours, j'allais dire logique, et en même temps, il n'y a jamais vraiment de logique toujours derrière, il ne faut pas oublier. On va se dire, derrière, on va essayer de fixer les œuvres qui ont été créées, on va essayer de les fixer, on va essayer de les enregistrer, et là, on passe à la production de musique enregistrée. La production de musique enregistrée, on va aider plutôt donc des boîtes de prod, des labels, généalement, mais ça peut être aussi des sociétés d'artistes, ça peut être des artistes en fait en direct qui ont monté une structure. Et cette structure peut être associative, à fixer leur musique sur un master. Donc, elles viennent nous voir, ces structures, pour nous demander de l'accompagnement sur les cachets des artistes quand on enregistre, puisque quand on enregistre, la législation française vous oblige, en tant que producteur, à payer les artistes pendant les séances studio. Donc nous, on vérifie absolument que ça, c'est le cas, parce que sinon, les projets ne sont pas éligibles. On va prendre en charge une quote-part des factures de studio, des locations de matériel éventuelles, des cachets des ingé-sons, du mastering, etc., etc. Tout ce qui est post-prod, la pochette, tout ce qui est frais de fabrication au niveau du graphisme. Et on va aussi prendre en charge une quote-part du budget promo qui est alloué à ce projet. Donc on va additionner toutes ces dépenses et on va intervenir à hauteur de 40% de ce que nous on appelle dans notre jargon le cadre subventionnable. En fait, c'est 40% des dépenses éligibles de ces projets. Donc, on a plusieurs types de programmes d'aide à la musique enregistrée. On en a un pour les musiques actuelles, dans lequel le rap rentre, mais le jazz, l'électro, j'allais dire tous les styles de musique actuelle, amplifiée. Ce terme est toujours un peu difficile à définir. Et on va aussi aider dans la suite avec un autre programme qu'on appelle production de musique en images. On va vous aider à faire du clip. Et là, c'est la même chose. Un budget prévisionnel, une boîte qui est une société qui est donc qui détient les droits du master qui vient d'être produit a besoin d'aide pour enregistrer, pour faire un clip. Donc pareil, il y a des cachets d'artistes pour la présence sur le clip, des frais pour les figurants éventuels, pour le studio, le set, la lumière, etc., etc. Donc tous ces frais en fait sont budgétés et nous on intervient à hauteur de 30% de ces frais.
Quand tu dis 40% et 30%, c'est à chaque fois ça ou c'est le maximum que vous pouvez donner? Vous pouvez donner 20%
à... Tout à fait. Okay. Très bonne question, puisque c'est effectivement le cadre dans lequel on intervient. Mais déposer un dossier en demandant 40% du budget ne garantit pas que le dossier 1 soit aidé et 2 qu'il soit aidé au montant demandé. Il faut savoir que dans tous les systèmes d'aide que nous faisons au CNM, et c'est la même chose d'ailleurs dans les autres organismes, il y a plusieurs choses. Il y a un règlement qui vous donne tout simplement les règles du programme, les dépenses éligibles, etc. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape, le dossier il est instruit par une équipe. Dans le cas du CNM, pour chacun des programmes, nous avons des responsables et des chargés de mission qui étudient les dossiers, qui récupèrent les fichiers Excel, les argumentaires, les notes de production, les factures, les devis, qui vérifient que le dossier en tant que tel est non seulement valide, mais comporte bien tous les éléments. Puis ensuite, il est proposé à une commission. Et cette commission, ce sont des experts donc, du métier. Pour nos commissions, par exemple, en musique enregistrée, nous avons des producteurs phono, nous avons des distributeurs, des éditeurs, des artistes. Et ce sont des experts et des expertes qui vont donner leur avis sur non seulement la validité du projet. Alors, il n'y a pas de jugement artistique, attention. Quand je dis la validité, c'est sur des critères de professionnalisation, de bonne pratique, de stratégie, de montant d'investissement réalisé, etc., etc. On va avoir un certain nombre de critères d'appréciation qui vont permettre à la commission de rendre un avis. Et c'est effectivement dans ce cadre de 40% du budget qui peut être aidé ou 30% ou peut-être un autre pourcentage sur d'autres programmes que la commission va recommander d'attribuer telle ou telle somme à ces programmes.
C'est quoi le délai pour d'obtention de ces aides-là? Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance en fait?
Alors la première chose qu'il faut que vous reteniez s'agissant du CNM, c'est déjà de vous créer un espace. Parce qu'à la différence des OGC, SACEM, ADAMI ou les autres, nous on n'a pas besoin de déposer des œuvres pour ensuite avoir quelque chose. Par contre, on a besoin de s'inscrire. Donc premièrement, vous allez sur cnm.fr, vous vous inscrivez, vous créez un espace personnel.
C'est gratuit ?
C'est gratuit, totalement gratuit. Et vous renseignez nom, prénom, adresse mail et les choses qui vous intéressent de connaître. Avec ça, vous avez accès à un certain nombre de ressources, à la possibilité de faire des rendez-vous, ce genre de choses. Le deuxième niveau, il faut s'affilier. Et s'affilier, ça veut dire on va plus loin que d'avoir juste créé son login password lambda. Là, on a envie d'être proactif dans la démarche et on a envie d'avoir accès à des services premium, si je puis dire, et aux aides financières. Pour s'affilier, attention, ça prend quelques semaines. C'est-à-dire que vous faites une demande d'affiliation. Des fois, ça passe en quelques jours, mais parfois, on a eu un embouteillage avec la création de l'établissement. Ça a mis jusqu'à 3 semaines de délai pour qu'une affiliation soit valable. Donc toutes les personnes ici qui sont soit en direct en tant qu'artiste, auteur, ou des personnes qui ont une structure, qu'elle soit sous forme associative ou société commerciale, affiliez-vous. Pareil, c'est gratuit, mais on demande un certain nombre d'informations. Avoir un siège social en France, résident fiscal français, c'est un certain nombre de choses sur la validité de la structure sur le territoire. Donc c'est gratuit, ça met quelques jours. Et ça, c'est la condition sine qua non pour avoir accès aux aides financières. Donc faites attention, parfois des personnes se disent « je peux déposer pour dans deux semaines » et 2 semaines après, le temps de traitement sera trop court. Ensuite, on a plusieurs dates de dépôt dans l'année, chacun des programmes en question. Vous avez un espace personnel. Après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est assez facile, si je puis dire, quand on a l'habitude de manipuler des divers dashboards de plateformes ou de réseaux sociaux. Hein. Vous uploadez un dossier, vous avez, d'abord, vous téléchargez les pièces, vous avez un petit fil de conversation qui peut s'ouvrir si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement dans l'élaboration du dossier. Une fois que vous avez complété le dossier, vous l'uploadez. Vous choisissez à quelle date, pour quelle date de dépôt vous souhaitez que ce dossier soit étudié. Il est reçu. L'équipe vérifie que le dossier est complet, il ne manque pas d'informations particulières. Si c'est le cas, il passe dans une commission, généralement sous 4 semaines. Donc une date de dépôt, 4 semaines, puis une date de commission. Donc la date de commission, c'est tous les experts et les expertes autour de la table qui vont rendre leur avis. Vous êtes notifié dans les 2-3 jours qui suivent de cette commission du résultat de la commission. Et si le résultat est positif, que ce soit au montant demandé ou en dessous, on est payé généralement sous 8-10 jours pour recevoir le montant de l'aide. Faut savoir que cette année, le Centre national de la musique va avoir à peu près un budget global de 80 millions d'euros. Ça, c'est le budget de tout, de l'établissement, des salaires, des frais de fonctionnement, mais aussi des aides. Les aides financières au sein de ce budget de 80 millions d'euros, c'est 60 millions d'euros. Donc on a un établissement qui, on va dire, a vocation principalement à faire de l'aide financière. Donc c'est beaucoup d'argent. 60 millions d'euros, ça paraît colossal. Ça l'est d'ailleurs. C'est entre guillemets rien après les 2 années qu'on vient de vivre où on avait un budget de 200 millions d'euros par an. C'était les budgets de crise. Et je pourrais vous donner un peu plus de détails si vous voulez, mais par exemple, pour les aides à la musique enregistrée, que ce soit pour les différentes esthétiques, donc musique classique, musique actuelle et ou musique en images, cette année en 2023, on a 7 millions d'euros. Pour la bourse auteur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 2 millions d'euros. Pour le développement éditorial, donc le premier programme dont je vous parlais aussi, c'est 2 millions d'euros. Pour les aides au spectacle vivant, et je peux en donner un peu plus de détails après, c'est, on est avec 7 millions d'euros. Et pour le développement international, c'est 4 millions d'euros. Donc, quand vous commencez à accumuler toutes ces enveloppes, on s'aperçoit qu'on a cette chance en France d'avoir des aides à la production, à la création et à la diffusion qui n'existent nulle part ailleurs. Pour le faire beaucoup à l'étranger, ça n'existe pas du tout ailleurs.
Merci. Je m'en fais rêver avec tous ces billions là. Passons à Nathalie du côté de la SACEM. Quelles sont du coup les aides financières principales que vous proposez pour les jeunes artistes ?
Merci. Alors déjà.
C'est mieux que tous les 60 millions qu'il nous a sortis.
On a combien de temps ? On est bon en timing ?
Je pense, ouais, ça va.
Ouais. Évidemment, les chiffres c'est hyper important, mais moi c'est pas ce qui m'importe, c'est surtout les projets. Créatif, mais évidemment, on a des millions d'euros à dispatcher, il faut le faire le mieux possible. Après, ce qu'on peut constater, ce qu'on verra avec Baptiste, c'est qu'on a chacun nos spécificités. La SACEM, elle est dirigée par des auteurs, compositeurs et éditeurs. Les commissions sont constituées d'auteurs, compositeurs et d'éditeurs. Et ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément des budgets. Alors évidemment, il faut que ce soit viable, mais c'est la création, c'est de savoir à quel moment on soutient et pourquoi. Et donc, il y a des aides pour les créateurs en direct et des aides pour la filière. Mais quand on aide un festival ou une production ou quelque chose, on se demande toujours quel est l'angle pour le créateur, est-ce qu'il est vraiment mis en avant ? Et on fait tout dans toutes les aides pour tout cibler à ce niveau-là, mettre en avant vos créations en fait. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de 3 programmes d'aide qui vous sont directement concernés. La première qui est assez connue et facile à obtenir, en tout cas facile à demander, c'est l'aide à l'autoproduction phonographique. Et on s'était dit avec Baptiste, peut-être qu'on demanderait dans la salle qui est membre SACEM, par exemple. Ouais. Waouh. Tu veux le faire après pour toi, peut-être hein.
Ouais.
Ouais, je te laisse ton moment. Et est-ce que vous avez déjà demandé des aides ? Oui, il y en a ? Et est-ce que vous avez déjà obtenu une aide ? Non. Si, il y a quelqu'un ? Ah mais oui, on peut en parler ça. On a travaillé pas mal avec le CNM pour réagir par rapport au Covid et à cette situation inédite et on a fait en sorte de débloquer beaucoup d'argent. Ça a été géré avec le CNM et puis nous aussi on a eu nos fonds de secours directement destinés aux créateurs, aux auteurs, compositeurs et aux éditeurs. Et donc c'est beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour vous, pour vous aider. Alors, c'était des sommes assez symboliques, mais concrètement, ça pouvait concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs. Mais j'espère que tu pourras faire une demande plus tard sur tes créations. Donc, il y a beaucoup de membres et vous n'avez pas encore demandé d'aide. Donc, c'est le moment de parler de l'autoprod. C'est un programme que je gère avec Solène, qui est au premier rang, que vous pourrez retrouver après et demain sur le stand SSM et samedi. C'est un programme qui est assez simple à demander et pas forcément facile à obtenir, parce que, pour la bonne et seule raison, c'est qu'on ne vous demande pas de budget. Donc, c'est un énorme avantage. C'est qu'on sait bien que sur une première ou une deuxième autoprod, enfin, surtout la première, vous n'êtes pas forcément en mesure de répondre à la Convention de Rome ou à toutes ces réglementations qui sont pour autant obligatoires, mais qui ne sont pas, nous, indispensables à l'étude de votre demande. Donc, évidemment, il faut rentrer dans le cadre de la loi, mais on ne va pas vous demander ces éléments. On va vous demander surtout de nous fournir votre enregistrement. Donc, c'est une aide que vous pouvez nous solliciter un mois avant la sortie numérique. Par exemple, vous prévoyez de sortir le 1er mai votre EP ou album sur Spotify. Vous pouvez faire une demande à partir du 1er avril. Dans les critères, il vous faut au minimum 5 morceaux. Il faut avoir un début de clip, enfin un clip au minimum, pardon. Il faut avoir un début d'entourage pro, à savoir, et là c'est hyper large, à savoir un ou une manageuse, un producteur de spectacle ou un éditeur, ou une salle accompagnatrice ou une structure qui vous encadre, une structure type studio des variétés par exemple, ou d'avoir obtenu le fer, voilà, c'est des marqueurs importants pour nous. Une fois que vous avez réuni ces éléments, vous faites votre demande en ligne. Donc, en fait, ce n'est pas une aide qui va pouvoir vous aider sur l'enregistrement à proprement parler, mais c'est pour toute la suite, en fait. Donc déjà, c'est pour vous rembourser sur cet enregistrement, pour vous aider peut-être à payer les gens qui ont travaillé avec vous, et puis surtout pour vous aider pour la communication, la distribution, pour payer un ou une attachée de presse et pour toute la suite. Voilà pour les critères, globalement.
C'est bon ?
Bon. En général, il y a plein de questions, donc je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'on fait un jeu de questions-réponses ou je continue. Donc l'aide, à partir du moment où vous avez fait votre demande d'aide, souvent Solène vous contacte pour vérifier que tout va bien avec vous. Vous avez une date de passage en commission. Il y a à peu près 3 mois de délai, parce qu'on on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, à peu près 1000 demandes chaque année, quand on peut soutenir 150 projets par an. Donc ce n'est pas du tout une aide automatique et systématique. Ce que je n'ai pas rappelé, c'est que c'est toutes musiques actuelles. Donc, votre projet va passer en commission s'il est conforme administrativement avec d'autres projets, par exemple chansons, jazz, musique du monde, électro, etc. Donc, on a des commissions avec 100 projets. Il y a 15 membres de commission qui sont tous auteurs, compositeurs et éditeurs, à qui on va demander de surtout pas écouter avec une idée de « j'aime, j'aime pas », mais juste « est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'ils vont penser que votre projet est original ? Est-ce qu'il est viable ? Est-ce qu'il est original dans la création ? Et est-ce qu'il se démarque d'un autre ? En faisant fi de leur goût, évidemment.
Alors du coup, j'ai une question quand même là-dessus, même s'ils font fi de leur goût. Est-ce que dans ces commissions-là, il y a, puisque c'est, je pense que ça concerne les gens ici, il y a des représentants de l'esthétique rap ?
Bah oui, okay. Il y en a de chaque esthétique. Okay. Et d'ailleurs, après chaque commission, malheureusement, comme on ne peut pas aider chacun, tout le monde, il y a toujours la question de pourquoi je n'ai pas été soutenue, qui est dans la commission, etc. On ne communique pas sur les membres de commission parce qu'on sait la pression qu'ils pourraient avoir. Par contre, on invite sans arrêt les créateurs à postuler aux commissions. Parce que ce qu'on peut rappeler à la SACEM comme partout, j'imagine, on ne va pas venir vous chercher en disant « Tiens, on te nomme membre de commission. » Évidemment, il faut postuler. C'est le bon moment, c'est jusqu'au 31 mars pour postuler sur toutes les commissions. Donc, vous pouvez viser directement le conseil d'administration et ça serait super. Mais avant ça, en général, il y a d'autres commissions sur lesquelles vous pouvez vous positionner, comme la commission Autoprod ou la commission des variétés, et qui sont aussi des commissions très proches du CA et qui permettent aux créateurs de prendre part à leur société. Voilà.
Super. C'est bon pour l'autoprod, pour la première aide. Ou tu veux rajouter des choses?
Ouais, il y a plein de choses à dire sur l'autoprod, ouais. Mais après, pense qu'après, avec Baptiste, Louis a pas mal exposé ses aides. Je pense qu'il y aura sûrement des questions concrètes, ouais, sur comment ça se passe.
Est-ce que peut-être que j'ai raté, mais est-ce que tu as donné les montants pour
On a une enveloppe d'1 million d'euros. Okay. Alors oui, l'aide, elle peut être, si on vous soutient, c'est une aide de 6 000 euros. Et alors après, il y a des conditions pour, par exemple, si vous avez touché, parce que je l'ai dit, oui, c'est pour le premier ou deuxième autoprod. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'au troisième, on ne peut plus aider, sauf si vous avez touché plus de 10 000 euros sur une des 3 dernières années. Donc là, c'est un peu compliqué, ça n'arrive pas au tout début, donc il faut avoir un peu d'ancienneté. Et là, votre aide, elle peut être jusqu'à 10 000 euros si vous êtes producteur ou coproducteur de votre release party. C'est un peu compliqué, on va dire que c'est encore en test. Ça fait 2 ans que ce programme, enfin que cette variante existe. Je ne suis pas sûre que ça corresponde vraiment à notre actu. On va peut-être faire évoluer, et c'est la chance de nos programmes d'aide, c'est qu'ils sont conçus entre nous, les équipes et notre CA. Donc on fait évoluer continuellement les programmes, comme peuvent le faire le CNM et l'ADEMI, pour répondre au mieux aux besoins.
On termine avec Baptiste, du coup.
J'ai plein d'autres trucs.
Oui, on aura le temps d'en reparler.
Il y avait 2 autres programmes.
Tu veux qu'on les enchaîne maintenant ? Vas-y.
Je fais
Baptiste,
très court, pardon. Donc l'autoprod, c'est super simple. Ensuite, il y a un programme qui est plus difficile à obtenir, c'est l'aide à l'accompagnement de carrière. Donc c'est un programme qui nous permet d'aider 25 artistes chaque année, qui sont en général très structurés. Donc il y a au minimum, donc évidemment l'artiste, qui est très talentueux et qui arrive au bon moment. Il y a un éditeur et un producteur de spectacle. En plus, souvent, il y a un label, mais la SACEM n'aide pas les labels. Ça, c'est mes collègues. Et voilà, pour l'accompagnement de carrière. Et puis, quand on soutient un artiste en accompagnement, je pense à Meryl, qu'on va avoir ce soir et qui fait sa première, on va dire que c'est la grosse priorité du tourneur, de l'éditeur, et que l'artiste mise tout et que c'est hyper important pour chacun. Donc, une fois ces critères dits, on peut dire que c'est le cas de tout le monde, mais il faut vraiment qu'on sente... une priorité, surtout un projet artistique qui est convaincant. Donc on essaie d'être représentatif de toutes les esthétiques, et puis évidemment on n'en a pas parlé, mais c'est présent partout, c'est d'avoir le maximum de parité, de mettre autant de femmes que d'hommes, et encore la notion de genre est complexe, mais voilà, on fait tout pour avoir le plus d'artistes représentatifs des esthétiques et des genres.
Et quelle place occupe le rap dans la répartition de ces aides-là ?
De cet accompagnement, on ne peut pas positionner que des artistes rap, mais sur 24 l'année dernière, il y en avait 3. C'était pas mal. Après, on essaye toujours de faire mieux, mais pour autant, chaque esthétique a besoin d'être représentée. Et ce qu'on s'est dit en coulisses tout à l'heure, c'est que l'esthétique rap est compliquée à soutenir, dans le sens où souvent... il y a une structuration toute particulière en début de carrière. Souvent, ça explose très vite et avant qu'on s'en rende compte, en 6 mois, vous pouvez faire des zéniths sans qu'on ait rien vu. Et d'un coup, votre entourage n'a peut-être plus besoin d'aide à ce moment-là. Et par contre, vous n'êtes toujours peut-être pas membre de SACEM, ça c'est marrant. Souvent, on le voit très souvent. Donc, on récupère nos collègues des répartes et des vérifs, récupère des artistes qui font des grosses tournées et qui ont oublié d'adhérer et de déposer. Donc, on va parler beaucoup d'argent. Enfin, ils vont parler beaucoup d'argent. Mais oui, c'est une structuration qui marche souvent sans la filière au départ. Et c'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas. En tout cas, ça part sans besoin d'aide forcément. Ça y va, quoi. Avec un public hyper vif. Et puis, il y avait une troisième aide qui est très comparable à l'aide dont parlait Louis, qui est l'aide au développement éditorial, qui est pour nous hyper importante, puisque c'est le E de SACEM, donc les éditeurs qui représentent beaucoup pour nous. Et qui s'engagent énormément avec cœur et financièrement aussi pour les créateurs. Donc, c'est quasiment le même programme. Après, la particularité, c'est que ce n'est pas cumulable et qu'on n'intervient pas sur les mêmes postes au même moment. Mais c'est une aide en faveur des auteurs-compositeurs pour les éditeurs qui investissent dans un projet. Et il faut un minimum de droits perçus. Oui. Il faut 3 000 euros minimum l'année précédente la demande et on intervient jusqu'à 50% des dépenses avec un plafond. Sur tous les postes concernés par les éditeurs.
C'est le même programme, mais on s'appelle avant pour être sûr qu'on n'aide pas deux fois les mêmes personnes.
Elles ne sont pas cumulables.
Elles ne sont pas cumulables.
Mais est-ce que pour d'autres qui ne sont pas similaires comme ça, c'est cumulable ?
On va peut-être en parler après, Baptiste.
Ok. Ouais.
Okay, j'ai fini en gros.
Ça marche. Baptiste, à toi. Je pense que du côté de l'ANAMI, il y a des types d'aides qui sont peut-être un peu différentes de tes collègues, notamment en ce qui concerne le live. Je pense que tu vas en parler. À toi.
Oui, alors déjà en fait on a déjà une première différence entre deux familles d'aides à l'ADAMI. D'un côté on va avoir des aides qui sont dites sélectives et d'un autre des aides qui sont dites automatiques. Alors je vais commencer par les aides automatiques parce que c'est tout de suite celles qui font le plus rêver. En fait, ces aides automatiques, on les a lancées il y a 1 an et demi sur le spectacle vivant. Donc elles sont à destination des structures employeuses des artistes, donc typiquement des tourneurs, des producteurs de spectacles, donc pour la création et la diffusion de spectacles. Quand on dit qu'elles sont automatiques, ça veut dire que, en fait, vous prenez, je ne vais pas rentrer dans les détails des conditions, mais En somme, vous prenez la somme des salaires bruts des artistes, vous faites x 40%, eh bien, c'est le montant de l'aide voilà, qui est accordé au projet. Donc ça, c'est pour création et diffusion d'un spectacle. Cette aide, elle a aussi une petite sœur qui est l'aide aux premières parties, qui est tout aussi automatique. Et là, pour le coup, qui, je pense, vous intéressera peut-être plus. Bon, elle requiert toujours le fait d'avoir un producteur, enfin, du moins une structure qui soit employeuse des artistes. Alors, peut-être que vous avez déjà un tourneur, peut-être que vous-même êtes structuré et à ce moment-là, êtes en mesure de salarier vos propres artistes. Et il s'agit en fait de pouvoir aider à ce que donc, les artistes se produisent en première partie d'artistes plus établis. Et on a besoin simplement d'au moins un artiste sur scène. Bon, après, il faut que la jauge de la salle soit supérieure à 350 personnes et qu'il y ait un contrat de session. C'est-à-dire que le spectacle soit vraiment vendu donc soit à la salle, soit au producteur de la tête d'affiche. Et il faut au moins 3 dates comme ça. Et dès lors que ces conditions se réunissent, vous faites la demande, eh ben, vous avez une aide qui est égale à 70% du salaire brut des artistes, plus une contribution forfaitaire de 200 € par date. Donc en fait, en respectant un peu les minima, on va dire, qui sont prévus pour les cachets, ça veut dire que si vous êtes seul sur scène, vous avez au moins 3 dates à venir, ben, ça vous fait une aide de minimum 900 €. Et voilà, et plus vous êtes nombreux, plus vous avez de dates, plus l'aide peut monter. Et celle-ci, elle est plafonnée à 6 000 €. Je vais revenir sur les aides sélectives maintenant. Donc les aides sélectives, chez nous, elles ont une particularité, c'est que s'agissant de tout ce qui est enregistrement, donc de titres, hein, de EP, d'albums, etc., en fait, elles sont réservées à des artistes qui on va appeler producteurs ou productrices de leur enregistrement. Donc c'est des artistes qui, quelque part, soit possèdent une structure commerciale qui va être dédiée justement à leur projet phonographique, soit ont en pratique, on va dire, une structure associative qui se retrouve par la force des choses dédiée à leur projet. Au travers de ça, en fait, ces artistes vont donc contrôler leur enregistrement, la façon dont ceux-ci s'organisent, se financent, se diffusent, etc. Et donc, on va les appeler donc artistes producteurs ou productrices. On a 3 types d'aides différentes qui sont une sorte d'étagement, on va dire, selon leur accessibilité. Donc, je vais parler juste de la première aide, qui est l'aide à la promotion. L'aide à la promotion, donc, est destinée à des artistes, donc producteurs ou productrices de leur enregistrement, qui ont un contrat de distribution, qui ont déjà eu quelques titres parus dans le passé, qui auraient pu être distribués. Si ce n'est pas le cas, depuis quelques mois, on a lancé une alternative qui est que si vous êtes un artiste lauréat ou lauréate d'un dispositif national d'accompagnement à l'émergence, par exemple Buzz Booster ou bien le collectif ou le FER, etc., ou le chantier des Franco, il y en a quelques-uns comme ça, eh ben, on va considérer que comme vous êtes déjà accompagné, il n'est pas nécessaire que vous ayez déjà eu quelques titres passés. En tout cas, une fois que les premières portes donc, de l'aide à la promotion vous sont ouvertes, l'idée, c'est qu'en fait, vous nous sollicitiez sur la promotion qui va être réalisée autour d'un EP ou d'un album en matière d'attaché de presse, de chat d'espace, de teaser, EPK, sponsoring sur les réseaux sociaux, etc. Et là, cette aide, elle peut être égale jusqu'à 80% du budget hors taxe de votre projet. Des dépenses promotionnelles. Et je reprécise que c'est donc une aide sélective. Ça veut dire donc qu'elle passe en commission. C'est une commission qui est composée également d'artistes qui se réunit tous les mois. On a des délais plutôt courts, puisque quelque part, quand un dossier nous parvient assez complet, 3 ou 4 semaines plus tard, il peut être passé en commission et avoir instantanément reçu une réponse. Mais en tout cas, cette aide à la promotion est vraiment à retenir parce que on l'a voulu comme étant la plus accessible. Et voilà. Et parallèlement, pour terminer un peu, on a aussi lancé quelque chose d'un peu différent, qui est encore un peu en phase d'expérimentation et d'affinage. C'est destiné au contenu numérique, en fait, à leur création. Ça peut prendre la forme d'une aide, donc si c'est une structure qui nous sollicite, mais aussi d'une bourse, si c'est une personne physique. Donc, et pour cela, en fait, il faut que l'artiste ait déjà eu 10 cachets, je crois, oui, c'est ça, 10 cachets minimum sur les 2 années précédentes, et en fait, ait un besoin, l'idée du coup, de vouloir créer des contenus numériques. Dans quel but ? Dans celui de vouloir développer sa communauté, l'animer. quelque part un peu faire sa promotion personnelle. Il ne s'agit pas de promouvoir un EP, il ne s'agit pas de promouvoir un album, ni de la tournée, mais vraiment d'occuper un peu vraiment les réseaux sociaux, Internet, et en proposant en fait, voilà, des contenus qui vont être dits numériques, soit audio, soit vidéo, soit typiquement innovant. Donc ça peut prendre la forme de podcast, ça peut prendre la forme, pourquoi pas même d'un jeu vidéo, ça peut prendre la forme d'un super site internet, ça peut prendre la forme de reels, vraiment voilà, fait avec soin, avec des moyens aussi. Ça souvent, c'est donner cette possibilité de faire les choses avec, en gros c'est donner des moyens pour que la qualité en fait soit au rendez-vous et serve au mieux le projet de l'artiste. Et pour ça, cette aide au contenu numérique ressemble un petit peu à l'aide à la promotion, puisque l'idée, c'est de pouvoir prendre en charge, pareil, jusqu'à 80%, on va dire, en gros, des dépenses. Mais ça, bon, pour toutes ces aides, je vous invite à regarder plus précisément sur notre site adami.fr. Là, s'agissait de vous en donner un peu un apéritif.
Merci. Question peut-être pour tous les trois. Quand on postule, quand on candidate à une aide et qu'on ne l'obtient pas, est-ce qu'on peut retenter notre chance à la prochaine commission, ou est-ce que, je sais pas, on est cramé pendant un an? Enfin, comment ça se passe, quoi? Est-ce qu'on peut retenter indéfiniment comme ça?
Je vais bien commencer. Bien sûr qu'on a l'opportunité de revenir. Alors, pas sur le même projet. En fait, tout dépend. Si un projet est rejeté par une commission, vous n'allez pas le redéposer, le même projet à la prochaine commission. La réponse risque bien d'être la même. Par contre, une structure peut déposer même plusieurs projets en même temps. Un label peut avoir plusieurs artistes en production, et etc. Donc, on n'est pas cramé. Le seul truc où on peut potentiellement être cramé, c'est si vous touchez une aide. Les aides, elles sont parfois en amont de la réalisation des dépenses. Ensuite, nous, on va vérifier que ces dépenses, elles vont bien être engagées par les porteurs de projets. Et s'il y a bien des factures qui nous parviennent en phase de « je vais faire une log de studio, mais je ne fournis jamais la facture » ou « j'ai bien fait des salaires pour l'équipe artistique, mais je ne fournis pas de fiche de paye ». On passe derrière, quelques mois après, on a un certain nombre de temps pour faire ce qu'on appelle des bilans, donc des aides. Et si le bilan ne correspond pas à l'aide qui a été octroyée, on peut demander potentiellement un remboursement. Il faut savoir que quasiment toutes les aides au CNM, elles sont versées en deux temps. Ça peut être 50% à l'obtention de la subvention et les 50 autres pourcents seront versés au moment du bilan. Mais ça peut être 70, 30, 80, 20, ça dépend vraiment des programmes. Et donc, on peut demander le remboursement d'une aide si toutefois les dépenses n'ont pas eu lieu. On peut, si toutes les dépenses ont lieu, le complément d'aide est fait. Et parfois, on peut même, si on demande un remboursement et que le remboursement ne vient jamais, là, vous êtes grillé. Voilà. Et on ne peut plus demander d'autres aides autour tant que ce n'est pas régularisé.
C'est à peu près pareil. Voilà, si on nous fait une demande d'aide à la promotion d'un projet, le fait est, c'est que le mois d'après ou deux mois après, en fait, le projet restera le même. Donc, en fait, il ne sera pas possible de nous solliciter à nouveau. En revanche, évidemment, sur un projet différent, même mois après, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de stop, quoi, en la matière.
Pareil, évidemment.
Oui. OK.
Du coup, c'est le moment de dire qu'on reçoit beaucoup de gens pas contents après. Ce n'est pas la peine d'être super vénère. Ce n'est pas parce que vous avez été refusé une fois que c'est pour toujours, quoi. Après, on sait que la SACEM, souvent, au-delà de l'argent, il y a un affect tout particulier parce que vous savez que vous êtes jugé par vos créateurs, par des créateurs et par vos pairs, on va dire. Donc c'est ultra dur, surtout en autoprod, quand on démarre et qu'on a mis toute sa vie dedans, quoi. Mais donc non, une fois, on peut repostuler pour un prochain projet, sans souci.
La question du fait que, est-ce que ces aides sont cumulables, du coup? Est-ce que quand on obtient une aide de la SACEM sur telle chose, on peut obtenir une aide à la promotion de la DAMI par ailleurs? Comment ça se passe?
Oui.
Ouais, y a des règles de cumul en fait, qui sont prévues dans nos conditions aux uns et aux autres, hein, qui se recoupent plutôt facilement. Par exemple, il est tout à fait possible d'avoir une aide du CNM et de la DAMI sur la phase, on va dire, enregistrement de l'album, et de solliciter ensuite derrière la DAMI pour la promotion. De la même façon qu'il est possible En gros, il y a des cumuls qui sont possibles, et c'est vrai qu'on a des règles en la matière, quoi, avec des plafonds. Je crois que côté CNM, vous avez demandé est-ce qu'il y a au moins 50% du projet qui soit financé en fonds propres.
C'est ça. Et là, il faut distinguer deux choses. Le CNM opère avec de l'argent public, et la SACEM et la DAMI opèrent avec de l'argent privé. Donc il y a aussi une règle de financement, de taux de financement dans un projet d'argent public qui ne peut pas dépasser 50%. Donc on peut cumuler les aides CNM avec des aides d'argent privé, donc SACEM, Adami ou autre, ou mécénat, ou l'apport producteur, etc. Et il y a une autre chose, en fait on se connaît assez bien en général. Par exemple dans les commissions, on a donc des experts, qui sont des gens du métier, qui vont représenter vraiment les projets. Mais en tant que OGC, organisme public et autres, on est aussi observateur dans les commissions des uns et des autres pour pouvoir dire attention, ce projet est passé parmi les commissions de telle ou telle chose. Les informations qui vous sont livrées ne sont pas celles que nous avions, etc. On a des garde-fous. On travaille ensemble. Il faut savoir que les OGC ici présentes font aussi du financement au sein du CNM. Nathalie parlait tout à l'heure d'un programme de sécurisation des revenus des auteurs et des autrices opéré par la SACEM mais financé par le CNM. Voilà, c'est un écosystème de financement au niveau de la France entre privé et public. On échange beaucoup d'informations, ce qui permet d'éviter des effets d'aubaine.
Ouais, et puis Louis, justement, tu parlais donc de l'origine des fonds du CNM, donc fait que c'est l'argent public. C'est là où je pense qu'il est important que Nathalie et moi puissions préciser d'où vient en fait l'argent de nos aides côté SACEM et Adami.
Tout à fait.
Bah, je commence parce que oui, historiquement, la SACEM a toujours, le conseil d'administration a statutairement toujours développé une action culturelle avec des fonds dédiés depuis les années 60. Et ensuite, il y a eu la loi Lang qui est arrivée en 85. Échec Baptiste adore. Expliquer la copie privée. Vas-y.
Non, mais donc il y a cette loi Lang qui est arrivée en 85 et donc non seulement a-t-elle reconnu les droits voisins aux artistes interprètes et aux producteurs, mais donc elle a également vraiment instauré deux types de droits, donc qui sont en fait la copie privée et la rémunération équitable. La rémunération équitable, tout à l'heure je vous disais c'est un peu le corollaire des droits d'auteur de la SACEM, hein. Vous avez votre morceau qui passe à la radio, il y a les droits d'auteur qui sont générés d'un côté et puis il y a la rémunération équitable qui est générée de l'autre pour les interprètes et pour les producteurs. Mais donc il y a cette copie privée, et qu'est-ce que c'est que cette copie privée? Et bien, il s'avère que c'est une forme de rémunération compensatoire qui est prélevé en fait sur tous les supports enregistrables. Donc ça a commencé avec des cassettes, voilà, mais désormais c'est surtout des clés USB, ce sont des disques durs externes et ce sont également et surtout des smartphones. Donc en fait chaque fois que vous achetez un de ces supports enregistrables, donc il y a une petite redevance qui est donc collectée par un organisme qui s'appelle Copie France, et Copie France ensuite va répartir cela donc à la SACEM, à la DAMI, à la SPIDAM, qui est un autre organisme qui gère les droits des artistes interprètes, à la SCPP, à la SPPF, et aussi, ainsi qu'à d'autres organismes qui vont générer d'autres types de droits. Et en fait, cette somme-là qu'on reçoit, chaque organisme, 75% de celle-ci, donc on doit la répartir donc, parmi les artistes que nous représentons. Et les 25% restants, c'est ça en fait, qui va financer en grande partie notre action artistique. Donc en fait, voilà, on peut faire vraiment la liaison directe. Aujourd'hui, comme les smartphones représentent 60% de cette copie privée en France, eh ben, toutes les aides dont on vous parle, enfin du côté privé, sont en gros financées essentiellement par tous ces smartphones, ces clés USB, etc. Donc quelque part, ce sont des petites dépenses. Quand vous achetez un smartphone, ce n'est pas une dépense extraordinaire. Vous pouvez regarder sur le ticket de caisse et le montant apparaît nécessairement. Mais en fait, ce petit montant qui est acquitté comme ça et bout à bout, c'est ça qui en fait va contribuer à irriguer vraiment tout ce système de financement de la création en France et auquel justement après justement, l'État abonde aussi très généreusement par ailleurs.
C'est très clair. On a beaucoup parlé d'argent jusqu'à présent. En même temps, c'est l'essentiel. Mais il n'y a pas que les aides financières de chacun de vos organismes. Vous avez aussi des dispositifs d'accompagnement autres que financiers qui peuvent être très utiles pour le développement d'une carrière. Est-ce qu'on peut faire rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, un petit tour d'horizon des principaux programmes d'accompagnement que chacun vous pouvez proposer? On commence par le CNM.
Alors je vais faire très vite. Il y a deux types d'accompagnement qui sont faits. Un, il y a des formations Je vous invite sur le site du CNM à aller regarder les formations qui sont présentes. Donc, ce sont des formations payantes, mais dont les tarifs sont extrêmement compétitifs hein, par rapport à ce qui peut être pratiqué ailleurs. Il y a sur plusieurs thématiques, ça peut être en musique enregistrée, comment monter mon label, développer mon projet sur Internet, générer de l'audience, etc. etc. Donc cnm.fr/formation, vous avez tout le catalogue en ligne. Donc ça, c'est la réponse, si je puis dire, elle est payante, mais en tout cas, on a une offre non négligeable. Il y a de l'édition aussi, donc un certain nombre de bouquins sortent régulièrement. Les contrats dans la musique, c'est une sorte de bible pour tous les jeunes entrepreneurs. Et je vous invite à regarder la nouvelle édition qui est sortie il y a 3 mois. Il y a un paquet de bouquins là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, une offre. Ensuite, il y a des conseils. Il y a, je puis dire, 2 personnes en permanence qui font du conseil au CNM. Vous pouvez les contacter, prendre rendez-vous en ligne avec ces personnes pour leur demander comment je peux rentrer dans le CNM, pour quel type de projet, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur telle ou telle chose, quelle que soit votre problématique. Ils sont une porte d'entrée et ils sauront vous orienter au travers des autres programmes d'aide éventuels et vous conseiller même hors CNM sur ces choses-là. Et ensuite, spécifiquement, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, inscrivez-vous et affiliez-vous, parce que après vous avez la possibilité techniquement d'aller chercher pour chaque service d'aide, mais aussi sur des problématiques de transition écologique, égalité femmes-hommes, etc., etc. Enfin, un certain nombre de sujets qui sont portés par l'établissement. Vous pouvez prendre des rendez-vous spécifiques avec les personnes. On fait des permanences chaque semaine, différentes plages horaires. Donc ça, c'est vraiment ce que j'allais dire de pragmatique. Après, il y a un ensemble d'autres choses, des partenariats, des choses. Je ne vais pas en parler ici, on n'a pas assez de temps. Mais déjà, d'un point de vue très pragmatique pour vos projets, vous pouvez avoir une écoute particulière et tout ça, ça se passe via son espace personnel.
Et par ailleurs, il y aura un stand de CNM demain et après-demain ici à la place, à la L2P Convention, pour rencontrer des professionnels.
Exactement. N'hésitez surtout pas à aller les voir et à demander des compléments. La formation, elle est parfois indigeste quand on vous la livre comme ça. Et c'est mieux de retourner voir et prendre un peu plus de temps. Ouais.
Il y aura également un stand SACEM, pareil, vendredi et samedi. Du coup, Nathalie, pareil, même question pour toi. Petit tour d'horizon des programmes d'accompagnement que vous proposez.
Oui, alors déjà, nous, quand il y a des aides financières, mais c'est aussi beaucoup d'accompagnement, comme on le fait, des conseils, des mises en relation, des suivis quand on accompagne un artiste. C'est pas juste 6 mois et c'est pas juste financier en général. Par exemple, on travaille avec beaucoup de festivals. On a des scènes SACEM sur lesquelles on fait tout pour placer des artistes qu'on a pu soutenir. Donc, on fait en sorte de les programmer. Donc, il y a un vrai lobbying quelque part pour en parler le plus possible. Et puis, je pense à une plateforme qui a été dédiée, enfin, qui a été lancée il y a 4-5 ans et qui prend beaucoup de place chez nous, qui est SACEM+, qui est une plateforme qui est là pour vous aider pour des mises en relation, pour des offres financières, justement, sur. C'est des tarifs négociés avec un peu tous les métiers qui concernent la vie des créateurs au sens large. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est, par rapport à la CNIL, on ne peut pas vous faire adhérer de suite, mais allez-y sur votre espace et vous verrez que tout est fait pour vous faciliter la vie. Et après, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain, sur ce genre. Enfin, on est partenaire de la place comme mes collègues et on est très mobilisés sur tous les festivals et tous les lieux de rencontre. Donc, on est toujours là pour répondre à vos questions sur le terrain et même à la SACEM, évidemment, bien sûr.
Merci. Baptiste, à toi.
Non, mais tout à l'heure, je vous ai parlé. C'est vrai que quand vous êtes associé d'amis, vous avez accès donc, à du conseil juridique qui est assez important. Voilà, pour pouvoir justement vous renseigner un peu sur les questions qui pourraient naître, sur voilà, qu'est-ce qu'un contrat d'artiste, comment ça fonctionne. Même voilà, vous aider aussi dans des problématiques que vous pourrez rencontrer dans l'exercice de votre carrière d'artiste. Sinon, en termes d'accompagnement, on est. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ce que je pensais le réserver à ce moment-là, c'est qu'on a aussi des bourses à la formation. Voilà, dans l'usage qu'on doit faire, notamment cette copie privée, on doit notamment aider la formation. Et il s'avère que donc, on a des partenariats, par exemple, avec des organismes comme la Manufacture Chanson ou bien Harmonique, qui font que. Ben, si vous avez déjà eu un EP qui est sorti il n'y a pas si longtemps, si vous avez eu quelques cachets, etc., vous pouvez peut-être prétendre à une bourse en fait, qui vous permettra qui en gros prendra en charge votre formation. C'est-à-dire que vous n'aurez rien à débourser. L'idée, c'est que vous puissiez suivre voilà, une formation sur une technique de chant vocal, sur du coaching scénique, etc., et donc de façon gratuite. Et voilà, ce que je peux dire.
C'était bien, c'était bien, très bien. On conclut là-dessus. On arrive au bout du temps. J'espère que cet échange a pu vous être un peu utile selon vos profils. Un grand merci à nos intervenants, Nathalie, Baptiste, Louis. Ouais, on peut les applaudir.
Merci.
Merci,
merci
beaucoup.
L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talks. Par la place.